Kate Chopin. L'enfant de Désiré. Comme la journée était agréable, Madame Valmondet prit la route pour aller à l'abri voir Désiré et son enfant. Désiré avec un bébé, voilà qui la faisait rire, car il lui semblait que c'était hier, Désiré elle-même n'était guère plus qu'un bébé, que monsieur, franchissant à cheval le portail de Valmondet, l'avait trouvée couchée et endormie à l'ombre du gros pilier de pierre. La petite s'était réveillée dans les bras de monsieur et s'était mise à réclamer « papa ». Elle ne savait rien faire ni rien dire de plus. Certains pensaient qu'elle s'était égarée toute seule, étant à l'âge où l'on commence à trotter. Mais l'opinion la plus répandue était qu'elle avait été volontairement abandonnée par une bande de Texans dont le chariot bâché, tard dans la journée, avait emprunté le bac tenu par Cotton Maïs, juste en dessous de la plantation. Avec le temps, Madame Valmondet avait renoncé à toute conjecture, ne retenant que ceci, une providence bienfaisante, voyant qu'elle n'avait pas d'enfant de sa chair, lui avait envoyé Désiré, qui serait l'enfant de son cœur. Car, en grandissant, la petite fille était devenue belle et douce, affectueuse et sincère, l'idole de Valmondet. Comment s'étonner qu'un jour, alors qu'elle était appuyée au pilier de pierre où elle s'était endormie 18 ans auparavant, Armand Aubigny, passant par là à cheval, soit tombé amoureux d'elle au premier regard. C'est ainsi qu'on tombait amoureux chez les Aubigny, qu'au matin d'un coup de pistolet. L'étonnant, c'est que l'amour ne l'eût pas saisi plus tôt, car il la connaissait depuis qu'il était arrivé de Paris, d'où son père l'avait amené à l'âge de 8 ans après la mort de sa mère. La passion qui s'éveilla en lui ce jour-là, lorsqu'il la vit au portail, déferla comme une avalanche, ou un feu de prairie, ou toute chose qui franchirait allègrement n'importe quel obstacle. Monsieur Valmondet, gagné par le sens des réalités, tint à ce que l'on prit bien tout en considération, à savoir l'obscure origine de la jeune fille. Armand la regarda au fond des yeux, sans se soucier de rien. On lui rappela qu'elle n'avait pas de nom. Quelle importance, puisqu'il pouvait lui donner un des noms les plus anciens et les plus nobles de Louisiane. Il commanda la corbeille à Paris, et s'efforça tant bien que mal de contenir son impatience jusqu'à son arrivée, puis ils se marièrent. Il y avait 4 semaines que Madame Valmondet n'avait pas vu Désiré et son enfant. Quand elle arriva à l'abri, elle frémit dès qu'elle aperçut la demeure, comme toujours. Le lieu était triste, privé depuis des années de la douce présence d'une maîtresse. Le vieux monsieur Aubigny s'étant marié en France et y ayant enterré son épouse, trop attachée qu'elle était à son pays pour jamais le quitter. Le toit noir et pentu semblait enfoncé comme un capuchon sur les larges galeries qui faisaient le tour des murs de stuc jaune. De grands chênes imposants poussaient près de la maison, et l'ombre de leurs branches envahissantes au feuillage épais la recouvrait tel un drap mortuaire. De plus, chez le jeune Aubigny, la sévérité était de règle, et ses nègres, sous sa coupe, avaient oublié l'art d'être gais comme au temps de la clémence débonnaire de leur ancien maître. La jeune mère se remettait lentement, allongée sur un lit de repose, dans ses mousselines et ses dentelles blanches et légères. Le bébé était à ses côtés, au creux de son bras, où il s'était endormi en prenant le sein. La nourrice, assez claire de peau, s'est vantée, assise près d'une fenêtre. Madame Valmondet pencha sa corpulente personne au-dessus de Désiré et l'embrassa en la tenant un instant tendrement dans ses bras. Puis elle se tourna vers l'enfant. « Non, ce n'est pas lui !» s'écria-t-elle d'une voix effarée. En ce temps-là, le français était la langue parlée à Valmondé. « J'étais sûr, s'exclafa Désiré, que vous seriez étonné de voir comme il a grandi. Ce petit cochon de lait, regardez ses jambes, maman, et ses mains, et ses ongles. Zandrine a dû les couper ce matin. Pas vrai, Zandrine ?» La femme acquiesça majestueusement de sa tête enturbanée. « Mais si, madame !» Et, poursuivit Désiré, il pousse des cris assourdissants. L'autre jour, Armand l'a entendu de la cabane de la Blanche. Madame Valmondé n'avait pas quitté l'enfant des yeux. Elle le prit dans ses bras et se dirigea avec lui vers la fenêtre la plus éclairée. Elle examina le bébé de près, puis, avec le même air scrutateur, elle posa son regard sur Zandrine, qui avait tourné la tête et fixé les champs au loin. « Oui, il a grandi, il a changé, » dit Madame Valmondé, lentement, en le remettant à côté de sa mère. « Qu'en dit Armand ?» Le visage de Désiré s'empourpra d'une lueur radieuse qui dénotait le bonheur absolu. « Ah, Armand est le père le plus fier de la paroisse, surtout, je crois, parce que c'est un garçon qui portera son nom, même s'il s'en défend, arguant qu'il aurait tout autant aimé une fille. » Mais je sais que ce n'est pas vrai. Je suis sûre qu'il dit cela pour me faire plaisir. Et puis, maman, murmura-t-elle en attirant vers elle le visage de Madame Valmondé. Depuis la naissance du bébé, il n'en a pas puni un seul, pas un. Pas même Négrillon qui a fait semblant de se brûler la jambe pour échapper au travail. Il s'est contenté de rire en ajoutant que Négrillon était un fieffé coquin. Ah, maman! « Je suis si heureuse que cela m'effraie. » Désiré disait vrai. Le mariage, et par la suite la naissance de son fils, avait nettement adouci la nature autoritaire et exigeante d'Armand Aubigny, pour le plus grand bonheur de la douce Désiré qu'il aimait éperdument. Quand il plissait le front d'un air sombre, elle tremblait, mais elle l'aimait. Quand il souriait, elle ne demandait pas au ciel de meilleures faveurs. Ses airs sombres n'avaient pourtant que rarement défiguré le beau visage ténébreux d'Armand depuis le jour où il était tombé amoureux d'elle. Quand le bébé eut 3 mois environ, Désiré se réveilla un matin avec la conviction que quelque chose menaçait sa paix. Une chose d'abord si subtile qu'elle était impossible à saisir. Comme un vague avertissement troublant, un air mystérieux chez les nègres, des visites inattendues de lointains voisins qui avaient peine à justifier leur venue. Et puis, chez son mari, un changement d'attitude étrange et terrible, dont elle n'osait pas demander la cause. Quand il lui parlait, c'était en détournant les yeux, d'où la flamme amoureuse d'autrefois semblait avoir disparu. Il s'absentait souvent. Lorsqu'il était là, il les évitait, elle et son enfant, sans aucune raison. Et, à voir comment il traitait les esclaves, on l'aurait cru soudain possédé par l'esprit de Satan. Désiré était malheureuse à en mourir. Dans sa chambre, en peignoir, par une chaude après-midi, elle passait négligemment les doigts dans les longues mèches soyeuses de ses cheveux bruns, qui retombait sur ses épaules. Le bébé, à moitié nu, dormait sur le grand lit d'acajou de sa mère, qui ressemblait à un trône somptueux avec son demi-baldaquin doublé de satin. Un des jeunes carterons de La Blanche, à moitié nu lui aussi, éventait doucement l'enfant avec un éventail en plumes de paon. Les yeux de Désiré s'étaient fixés sur le bébé d'un air distrait et triste, tandis qu'elle essayait de percer cette brume menaçante dont elle sentait l'emprise se resserrer autour d'elle. Son regard passait sans cesse de l'enfant au petit garçon debout à côté de lui, puis revenait se poser sur le bébé. « Ah !» Ce cri, elle ne put le retenir, et elle ne s'aperçut pas qu'il lui avait échappé. Son sang se glaça dans ses veines, et son visage se couvrit de sueur. Elle voulut parler au jeune carteron, mais elle ne put d'abord émettre aucun son. Quand il entendit prononcer son nom, il leva les yeux. Sa maîtresse lui montrait la porte. Il posa le large éventail duveteux et s'esquiva docilement, traversant le parquet ciré sur la pointe de ses pieds nus. Elle resta immobile, les yeux rivés sur son enfant, l'effroi peint sur son visage. Bientôt son époux entra dans la pièce. Sans la voir, il se dirigea vers une table et se mit à fouiller parmi les papiers qu'il a jonchés. « Armand !» s'écria-t-elle d'une voix qui aurait dû lui transpercer le cœur s'il avait eu quelque humanité. Mais il n'entendit rien. « Armand !» répéta-t-elle. Puis elle se leva et alla vers lui en chancelant. « Armand !» dit-elle encore d'une voix haletante en lui prenant le bras. « Regarde notre enfant ! Qu'est-ce que ça signifie ? Explique-moi !» Il détacha de son bras les doigts de sa femme, avec froideur mais sans brutalité, et il rejeta sa main. « Explique-moi ce que ça signifie !» s'écria-t-elle désespérément. « Ça signifie, répondit-il d'un ton dégagé, que l'enfant n'est pas blanc. Ça veut dire que tu n'es pas blanche. » L'intelligence soudaine de tout ce qu'une telle accusation impliquait pour elle l'arma d'un courage inhabituel pour la récuser. « Tu mens, ce n'est pas vrai, je suis blanche. Regarde, j'ai les cheveux bruns et les yeux gris. Armand, tu sais bien qu'ils sont gris. Et j'ai la peau claire. » Elle lui saisit le poignet. « Regarde ma main, elle est plus blanche que la tienne, Armand » s'écria-t-elle avec un rire hystérique. « Blanche comme celle de la blanche » répliqua-t-il cruellement. Et il partit, la laissant seule avec leur enfant. Quand elle fut capable de tenir une plume, elle envoya une lettre désespérée à Madame Valmondé. « Ma mère, on me dit que je ne suis pas blanche. Armand m'a dit que je n'étais pas blanche. Pour l'amour du ciel, dites-leur que ce n'est pas vrai. Vous devez bien savoir que ce n'est pas vrai. Je vais mourir, il faut que je meure. Je ne peux pas être aussi malheureuse et continuer à vivre. » La réponse qui lui arriva était sans détour elle aussi. « Ma désirée, reviens à Valmondé, reviens chez ta mère qui t'aime, viens avec ton enfant. » Quand cette lettre lui parvint, Désirée la porta dans le bureau de son mari et la déplia sur le secrétaire derrière lequel il était assis. Elle était comme une statue, muette, blanche et immobile, après avoir déposé le message. En silence, il la parcourut de son regard froid. Il ne dit mot. « Dois-je m'en aller, Armand ? » demanda-t-elle d'une voix acérée par l'angoisse de l'attente. « Oui, va-t'en. » « Tu veux que je m'en aille ? » ?»« Je veux que tu t'en ailles, oui. » Il trouvait que le Tout-Puissant l'avait traité cruellement et injustement, si bien qu'il avait en quelque sorte le sentiment de lui rendre la monnaie de sa pièce en poignardant ainsi son épouse au tréfonds de son âme. D'ailleurs, il ne l'aimait plus en raison du tort involontaire qu'elle avait fait à sa maison et à son nom. Elle se détourna, comme assommée par le coup, se dirigea lentement vers la porte, espérant qu'il allait la rappeler. « Adieu, Armand !» gémit-elle. Il ne lui répondit pas. C'était le coup d'arrêt qu'il portait au sort. Désirée s'en alla chercher son enfant. Zandrine arpentait avec lui la galerie obscure. Sans un mot d'explication, elle retira le petit des bras de la nourrice, descendit les marches et s'éloigna sous les branchages des grands chênes. C'était une après-midi d'octobre, le soleil se couchait. Au loin, dans les champs paisibles, les nègres cueillaient le coton. Désirée avait gardé sa tenue blanche et légère et ses mules. Elle était nue-tête et, sous les rayons du soleil, ses mèches brunes prenaient un reflet doré. Elle laissa la route de terre battue qui menait à la lointaine plantation de Valmondé. Elle traversa un champ désert où le chaume blessa ses pieds graciles, si délicatement chaussés, et réduisit en lambeaux sa robe fragile. Elle disparut parmi les roseaux et les saules qui poussaient en abondance le long des rives du bayou profond et paresseux, et elle ne revint pas. Quelques semaines plus tard, une scène étrange se déroula à l'abri. Au milieu de la cour bien balayée, à l'arrière de la maison, brûlait un grand feu de joie. Armand Aubigny était assis dans la vaste entrée, d'où il dominait le spectacle. Et c'était lui qui passait à une demi-douzaine de nègres les objets qui entretenaient le brasier. Un gracieux berceau d'osier aux garnitures raffinées fut placé sur le bûcher, qui avait déjà dévoré les richesses d'une layette de valeur. Puis vinrent des robes de soie auxquelles s'ajoutèrent des toilettes de velours et de satin, ainsi que des dentelles et des broderies, des capelines et des gants, car la corbeille était d'une rare qualité. La dernière chose à disparaître fut une toute petite liasse de lettres, d'innocents gribouillis que Désiré avait envoyés à Armand au temps de leurs épousailles. Un dernier feuillet était resté au fond du tiroir où il les avait prises. Ce n'était pas une lettre de Désiré, c'était un feuillet d'une lettre que sa mère avait adressée à son père autrefois. Il la lut. Elle rendait grâce à Dieu de l'amour béni que lui portait son mari. « Mais par-dessus tout, écrivait-elle, je remercie le bon Dieu nuit et jour d'avoir ordonné notre vie de telle sorte que notre cher Armand ignorera toujours que sa mère, qui l'adore, appartient à la race maudite marquée au fer de l'esclavage. » Kate Chopin, L'enfant de Désiré, traduit par Marie-Claude Peugeot, lu par Vincent Delépine pour Littérature Audio, avec l'aimable autorisation des éditions de La Belle Étoile et des éditions des Sirtes, tiré du recueil de nouvelles Une femme respectable, paru aux éditions de La Belle Étoile.